inventent. Ce soir, nous les rencontrerons et ce soir, nous leur poserons ces questions.
Ah, check this out.
Encore heureux. Du lundi au jeudi sur France Inter, à partir de 17h.
France Inter.
La voix est libre.
15h04, l'heure de retrouver là-bas si j'y suis, Daniel Mermet.
Oui, je voudrais vous parler de la télétransportation. C'est le fait de pouvoir déplacer un élément physique d'un point à un autre de la planète pratiquement instantanément. Et un exemple concret, si par exemple on prend des arbres centenaires, voire millénaires, dans une forêt primaire de Tasmanie. La Tasmanie, ça se trouve au sud de l'Australie. Donc si on prend ces arbres millénaires de forêt primaire, avec la télétransportation, on peut pratiquement instantanément les transporter dans une boîte à lettres française, par exemple, sous forme de prospectus publicitaire. C'est ce qu'on appelle la télétransportation. Et en 2013, donc en 2014 maintenant, ça fonctionne très bien. On est capable de transporter donc des arbres millénaires de forêts primaires de Tasmanie dans des boîtes à lettres françaises. Vive le progrès!
Dans la série « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais », Mark Zuckerberg, le champion de la transparence de la vie privée, ou de la plus de vie privée du tout, a une villa en Californie. C'est normal, hein, il faut bien habiter quelque part. Et qu'a fait Mark Zuckerberg? Eh bien, il a acheté les 4 villas les plus proches de sa villa, lui, de sorte à créer une grande zone privée pour protéger sa vie privée. Eh oui, faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Salut Daniel, c'est Joël du département de l'Aisne. Je t'appelle simplement pour te signaler quelque chose dont j'ai peu entendu parler par les médias, voire pas du tout, qui est une loi sur la loi de finances passée le 29-12-2013 en catimini, et qui prévoit que, la part de la cotisation au régime de prévoyance complémentaire à la charge de l'employeur, ça sera à nous, employés, de le déclarer. Ce qui veut dire que ça va nous augmenter artificiellement le revenu imposable. On va donc payer pour les patrons. Et effectivement, c'est super, quoi. Mais c'est vrai que je n'en ai pas entendu parler. Voilà. Donc j'aurais souhaité qu'effectivement les médias, et surtout pourquoi pas ton émission, puisque je l'écoute quotidiennement ou pratiquement en fonction de mes possibilités professionnelles, puissent au moins l'évoquer. Je t'en remercie par avance et je te souhaite une bonne continuation.
Bonjour Daniel, eh bien écoute, visiblement Télérama ne sait pas qu'il y a une émission qui s'appelle Là-bas, j'y suis, puisque dans son programme radio, on passe directement de la tête au carré à 14h05, au carrefour de l'Odéon à 16h05, et visiblement, il n'y a pas d'autre émission entre ces deux émissions. Donc peut-être Daniel qu'il faudrait leur signaler qu'il y a une émission qui s'appelle Là-bas où j'y suis. Vive Télérama, vive l'information bien complète. Au revoir Daniel.
Salut Daniel, salut les AMG Lorrain. Un petit message pour vous rappeler qu'on se retrouve aujourd'hui, donc mercredi, au bar associatif La Chaouée, pour un café repère de soutien au nouveau centre social autogéré de Metz, le Sésame. Ce débat sera l'occasion de faire le point sur les lieux autogérés comme source d'expériences alternatives. Je vous attends nombreuses et nombreux pour ce débat à partir de 19h. Salut !
Auchan, il était paysan, mais avant tout poète, et labourait son champ avec une fourchette. Il aimait tant les fleurs que les jours de tempête, il mettait un tuteur à chaque pâquerette. C'était le poète dans le vent. Salut !
Eh ouais, ça souffle, hein ? En Bretagne, ça souffle dur, si j'ai bien retenu les infos. Bonjour à tous et merci pour ces messages, chers AMG. Le bon Dieu te regarde même quand tu es au cabinet. Aujourd'hui, deuxième volet, on va rencontrer Noam Chomsky à Boston sur ce sujet. Et Ben Moglen, qui est un chercheur. Jérémy Zimmermann, pour essayer de répondre à nos inquiétudes concernant nos données personnelles, les miettes de nos données, oui, les miettes, les traces numériques que nous laissons partout, toute la journée, du matin au soir, où ça va, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce que c'est si inquiétant que ça? Visiblement, ça n'inquiète pas encore beaucoup. On se dit, je suis observé, récolte tout ce que je fais, tout ce que... et alors moi j'ai rien à cacher, etc. On va voir que la manipulation peut être très très importante et on assiste peut-être à la disparition, en tous les cas une menace énorme sur notre vie privée, sur notre intimité. Alors, on en prend conscience, il y a des défenses contre ça qui commencent à s'organiser, et il s'agit de bien comprendre cet enjeu considérable pour notre devenir et pour notre époque. C'est ce que nous allons essayer de faire jusqu'à 16h ou presque dans la basse, j'y suis. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous les auditeurs de la basse, j'y suis. Ce soir, le repère de Tréguier dans les Côtes d'Armor vous attend à 19h et comme d'habitude au café L'Aigle Noir. Nous vous proposons de commenter l'actualité de ces dernières semaines et il y a beaucoup à dire. Donc, à ce soir, 19h, L'Aigle Noir, Tréguier.
Le prochain repère de l'Abbassie-Jissuis du sel en Haute-Corrèze aura lieu comme d'habitude le premier mercredi du mois, c'est-à-dire ce mercredi 5 février à 18h30 au bar Le Troubadour du sel. Notre thème du mois sera l'Afrique et la démocratie, disparition de Nelson Mandela et état actuel de l'Afrique du Sud, Mali-Centrafrique, quelle est la place de la France, qui fera écho à l'émission de mercredi dernier. Notre ami Jean-Louis Manuel, qui a vécu 15 ans dans différents pays d'Afrique, nous fera part de ses observations. Venez nombreux.
Bon, et moi je voulais vous parler de ceux qui sont en face. En face de derrière ce grand mur avec ses grandes pointes où il y a écrit « Zone protégée ». D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez, c'est quoi?
Non, je sais pas.
C'est eux qui appellent, là. On est repérés.
C'est un client.
Parce que c'est ça, hein. Ici, c'est les grandes oreilles, c'est la NSA française.
Bah, bien sûr. Ça, on le sait. S'ils veulent, ils écoutent tout ce qui se passe autour. Hein.
On peut se dire légitimement, oh, ben moi, ce que je clique sur Internet, ça intéresse personne. Mais imaginez 5 ans ou 10 ans de tous vos clics sur Internet. Le moindre article de presse que vous avez lu, le moindre film porno que vous avez regardé, le moindre film pas porno, la moindre musique, les messages que vous avez tapés, ceux que vous avez commencé à taper puis effacés, etc. Imaginez tout ça. Et on se rend compte que ces profils pourraient en savoir plus sur nous-mêmes que notre famille, que nous-mêmes.
Ils savent tout ce qui se passe. Moi, il y en a un, il m'a dit, non, c'est tout ce que vous faites.
Et ça vous a pas foutu la pétoche?
Pas du tout. Alors moi, ça ne me dérange pas d'être observé, j'ai rien à cacher. La pétoche, moi, je suis honnête, alors. Donc, moi, je cache pas grand-chose. Hein.
When people say I'm not doing anything wrong, why should I worry about it? They're not entirely incorrect.
Quand les gens disent mais moi je fais rien de mal, j'ai pas à m'inquiéter, ils ont pas complètement tort.
But they're thinking about their secrets.
Mais en disant ça, ils pensent à leurs secrets.
They're not thinking about the doppelganger, about the other self.
Ils pensent pas à le double numérique qu'on a, à cette personne de l'ombre qui est manipulée et qui est déplacée par ceux qui ont le contrôle sur nos informations numériques.
It's not what they're doing wrong,
le danger pour les gens, c'est pas ce qu'ils font de mal, c'est ce qu'ils font tout le temps.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis. Le bon Dieu te regarde même quand tu es au cabinet. D'abord, on est très heureux de revenir là et de vous revoir, professeur Chomsky. Et là, on voudrait travailler sur les whistleblowers, c'est-à-dire à partir de Snowden, Mannings, Assange, de ces individus qui tout d'un coup révèlent des choses qui mettent vraiment en cause le système et l'administration américaine.
It was the Snowden revelations which gave an indication of the vast scope of surveillance and picking up everything that happens, probably this conversation, almost anything that has a digital character to it is likely to be picked up.
En fait, cette partie-là de surveillance, c'est ce qu'a révélé Snowden. C'est que tout ce qui passe, transite par les canaux digitaux, peut être surveillé, peut être écouté, est écouté, comme les, probablement cette conversation que nous avons.
The fact that it was happening is not surprising. If you look back at every point in time, governments will use whatever technology is available to try to control their main enemy, which is the domestic population. They want to know about them and control them. Every government, French government, Brazilian government, Chinese government.
À travers toute l'histoire, ça a toujours existé. Tous les gouvernements ont voulu surveiller leur ennemi, c'est-à-dire leur propre population, leur propre sujet. La France le fait aussi, le Brésil le fait aussi, la Chine le fait aussi.
And of course, the U.S. government has been doing it for a long time. What was surprising, to me at least, was the scale. And the scale simply indicates the level of technology that's available.
Or, ici, avec les nouvelles technologies, c'est l'ampleur de cette surveillance possible qui, moi, m'a surpris, parce qu'avec son avantage technologique, les États-Unis ont pu étendre ça à absolument toutes les communications numériques.
Est-ce qu'on peut imaginer une société, un monde, où il n'y a plus de secrets, vous n'avez plus de vie privée, vous n'êtes plus protégé, comme ça vous avez ce sentiment d'être observé partout, toujours, dans les moindres replis de votre intimité. Est-ce que c'est imaginable?
You don't have to imagine it, it's happening.
Pas besoin de l'imaginer, c'est ce qui est en train de se passer.
I mean, if you're walking in the streets of London, for example, almost everything you do is recorded and sent somewhere.
Mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Si vous vous baladez, par exemple, dans les rues de Londres, il y a un tel maillage de télésurveillance que chacun de vos déplacements peut être reconstitué et surveillé.
If your cell phone is on and you're traveling around the city, there's information about exactly where you're going, who you're talking to. It goes straight off to the database in Utah.
Pareil avec l'usage de votre téléphone portable. Le simple fait que vous déplacez avec votre téléphone portable en poche fait que toutes les informations sur votre comportement sont envoyées, bah justement, dans le centre de surveillance de la NSA dans l'Utah.
And also to commercial enterprises, to Google, Yahoo, they want to know what you're doing too, so that they can sell you things.
Et ça va non seulement au service de l'État, mais ça va aussi vers des entreprises privées comme Google, comme Yahoo, qui ont tout intérêt à savoir ce que vous faites.
Je vais évoquer un souvenir personnel. Ma mère était catholique et elle me disait quand j'étais enfant, Dieu te regarde même quand tu es au cabinet. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est dans la même situation, on va vers la même situation. C'est ce sentiment d'être observé partout. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ce contrôle, ça remplace le Dieu que ma mère imaginait.
Well, that's actually one of the directors of Google, Eric Schmidt, was interviewed about something called Google Glass. And he was asked whether this isn't an intrusion on privacy. And his answer, I think, is the slogan of the modern age. He said, if you're doing something that you don't think is wrong, everyone should know about it.
Mais M. Schmidt, qui est un des dirigeants de Google, je lui disais dans une interview qu'il donnait récemment au sujet des Google Glass, ces nouvelles lunettes qui permettent d'avoir une réalité augmentée. Eh bien, on lui posait cette question, mais qu'est-ce que vous faites du droit à la vie privée? Et ce à quoi il répondait, ça pourrait être résumé un peu le slogan de l'époque qu'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire, si vous ne faites rien d'illégal, alors qu'avez-vous donc à cacher?
Why shouldn't everything be on the internet?
Pourquoi tout ne devrait pas se retrouver en ligne sur Internet?
If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place.
Si vous faites quelque chose et que vous voulez que personne ne le sache, eh bien peut-être commencez par ne pas le faire.
Eric Schmidt, PDG de Google.
The reality is that search engines, including Google, do retain.
Il est vrai que les moteurs de recherche comme Google gardent effectivement ces informations pendant un certain temps.
3 décembre 2009.
And it's important, for example, that we are all subject in the United States to the Patriot Act.
Et il est donc important de savoir qu'avec le Patriot Act en vigueur aux États-Unis, il peut arriver que ces informations soient fournies aux autorités.
Voilà. Dans peu de temps, Amazon prévoit de vous envoyer un colis sans que vous l'ayez demandé. Vous êtes dans votre boîte à lettres. Oh, qu'est-ce que c'est? T'as vu, c'est quoi ça? Ah, oh, c'est Amazon. Et je l'ouvre. Ah, un bouquin. Bon, tiens, c'est quoi ce bouquin? Ah oui, je connais déjà cet auteur-là. Et ça, c'est un nouveau bouquin qui décrit, tiens. Ah ouais, intéressant. Voilà, alors je peux le garder, et à ce moment-là, Amazon me le facture, et je peux le renvoyer. Voilà, ça va être assez gentil de la part d'Amazon. Donc on va vous envoyer des trucs donc, que vous n'avez pas commandé, puis à vous de vous en débarrasser. Hein. C'est comme vous savez, le commerçant qui dit regardez ce pull vert là-bas, regardez, touchez, hein, ça c'est acrylique et coton, mais celui-là c'est vraiment de la laine, regardez. Et vous avez le pull entre les mains, comme ça vous ne savez pas trop où le mettre. C'est une technique de vente et Amazon va étendre ça. Bien, ça fait partie des techniques du nouveau marketing dont vous êtes la cible, dont chacun de nous est une cible commerciale. Et ciblé, vous avez la finesse du ciblage. Mais où ma métaphore fonctionne pas si mal, la métaphore du bon Dieu qui était dans les cabinets selon ma chère et bien-aimée maman, c'est ce que vient de nous dire Eric Schmidt, le patron de Google. Vous n'avez qu'à pas le faire. Voilà, il faut se conduire correctement, sinon le bon Dieu sera pas content et je serai puni. Moi, quand j'étais môme, il y avait deux listes, il y avait deux colonnes. Il y avait une colonne où le bon Dieu, il écrivait avec de l'encre dorée, quand j'avais bien agi, et puis en rouge, quand j'avais mal agi. Et tout ça, c'était collecté jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire qu'à ma mort, là, le bon Dieu, il regarde, il dit, bon, ben voilà, il y a beaucoup plus de rouge que de doré, celui-là, il va en enfer. C'est ce qu'on m'expliquait quand j'étais enfant. Ça va encore plus loin. Ça va encore plus loin. C'est, selon un autre patron de Google, enfin le vice-président de Google, Vinton Cerf, qui disait, la vie privée peut être considérée comme une anomalie. Voilà, plus de vie privée du tout. La grande différence entre les patrons de Google et le bon Dieu de ma maman, c'est qu'il y avait une intention morale là-dedans. Tout ça, c'était pour que je me conduise bien selon la morale de ma maman et selon la morale de son bon Dieu. Il y avait une intention, il y avait une idéologie, il y avait des idées au moins. Là, c'est pas ça du tout, c'est consommer, et ayez peur aussi, ayez peur, et nous vous surveillons, et nous vous punissons. Il y a cet aspect-là, le Patriot Act, c'est nous vous surveillons et vous consommez. Voilà le risque, l'immense risque qui est devant nous, qui est vraiment énorme. Il ne s'agit pas de faire de la paranoïa, il s'agit de mesurer l'ampleur de cette mutation, et de trouver les contre-feux, les réponses, les défenses en termes de droit face à ces phénomènes. Voilà quelques indications aujourd'hui dans Là-bas, si j'y suis, jusqu'à 16h, ou presque.
Le rapport entre les hommes est régi par la pomme. Nous sommes tous soumis à la loi des Pentium. Avertis sur clavier azerty de mail qu'on gomme. Nous sommes tous rentrés dans la norme. Plus les messages s'échangent, moins on dialogue. Plus on y passe du temps et plus ils nous absorbent. Hypnotisés, visés par l'écran, l'amplitude est mondiale et chaque jour elle s'éteint.
Ouais, mon cash.
Skype, Twitter, Google, Club sur i5. Crée ton mot de passe et tu deviens rentable, car la pub s'affichera même sur ton portable. Kobe Kobe, il faut que tu répondes. L'absence est mal perçue dans ce virtuel monde. Accepte, envoie, transmet, remplace. Rajoute-moi dans tes amis avant qu'on t'efface. J'ai la gerbe, car le temps file. J'ai l'impression qu'il se faufile et s'enfuit dans mon sans-fil. Des iPods ou digipass, trop de codes. Plus de place pour l'être humain et ses anciennes paperasses.
Ouais, mon cash.
Salut, ici c'est le forum de discussion où se retrouvent les nanas et les mecs de ta région. Viens vite nous rejoindre sur le chat le plus coquin du moment. Dépêche-toi.
Ça y est, si tu aimes les filles comme moi, alors rejoins-les sur mon chat.
Eh ben, que la NSA m'observe et des fiches sur moi comme au temps de la Stasi, je m'en fous après tout. Mais là, tout à l'heure, j'ai eu un message qui me proposait de parler directement avec des vraies jeunes filles. Voilà, je trouve ça troublant, mais qui a eu mon adresse? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Parce que mes collègues se disent « Oh, ça veut dire que Daniel a dû aller sur des trucs porno. » Et donc, il y a un truc comme ça qui se passe. Donc, ils sont en train de me soupçonner. Parlez-nous un peu de cette intrusion dans notre intimité, de ce système, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook, etc.
Billions of dollars depend upon figuring out how to get an advertisement on your mobile phone that you will always click on.
Des milliards de dollars sont dépensés pour pouvoir avoir des publicités sur ton téléphone portable sur lesquelles tu cliqueras.
We could begin by thinking about the problem as the secrets we do not want revealed.
On pourrait commencer à réfléchir à ce problème en pensant aux secrets qu'on ne veut pas voir révélés.
But maybe this concentration on secrecy too little characterizes your real perils and mine.
Mais c'est vrai que se concentrer trop sur ces petits secrets n'est pas suffisant pour voir le véritable risque qu'on court.
In the world of our digital selves, all that data you're creating, all that swiping and checking in, is creating a digital double of yourself.
Et dans le monde numérique où on vit, toutes les informations que tu éparpilles à chaque fois que tu cliques ou que tu passes ta carte bleue quelque part, tout ça est en train de faire un autre double de toi-même.
We are very predictable against that background.
Et face à toutes ces données qui nous concernent, nous devenons très très prévisibles.
Mm-hmm. We have good data about how easy it is to predict people's locations on the basis of their cell phone data.
Et par exemple, on a une assez bonne pratique maintenant pour pouvoir déterminer les déplacements des gens en utilisant toutes les informations collectées par leur téléphone portable.
If we have the mobile phone records of a person, we predict where she sleeps with 100% confidence.
Si on a les informations émises par les téléphones portables de quelqu'un, on peut prédire avec 100% de certitude où cette personne va dormir.
A person who spends half the week in New York and half the week in Los Angeles is totally predictable.
Quelqu'un, une personne qui passe la moitié de sa semaine à New York et l'autre moitié à Los Angeles est parfaitement prévisible.
Same like a man who never leaves his own faubourg.
Tout autant que quelqu'un qui ne quitte jamais son petit faubourg.
So that double which is being created of you in the data mine is very much capable of being moved around by others.
Et cette double de toi qui est créé dans les données numériques peut très bien être manipulé et utilisé par quelqu'un d'autre.
Where will you go? What will you do? What will you eat? What will you drink? How will you take your travels? All of this can be foreseen once that double exists.
Une fois que ce double existe, tout ce que tu feras, où tu iras, ce que tu mangeras, comment tu te déplaceras, tout ça pourra très facilement être prévisible.
Perhaps then it's not the disclosure of our secrets, but the disclosure of the very mundane, quotidien facts about us, which is most dangerous.
Et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux. Pas le dévoilement de nos secrets, mais le dévoilement de notre vie dans tout ce qu'elle a de plus quotidien et de journalier.
When people say, I'm not doing anything wrong, why should I worry about it? They're not entirely incorrect.
Quand les gens disent « Mais moi, je fais rien de mal, je n'ai pas à m'inquiéter », ils n'ont pas complètement tort.
But they're thinking about their secrets.
Mais en disant ça, ils pensent à leurs secrets.
They mean, I'm not Mr. Dominique Strauss-Kahn, what does it matter? Who will care?
Ils disent « Moi, je ne suis pas Dominique Strauss-Kahn, donc qu'est-ce que ça change? Tout le monde s'en fout. »
They're not thinking about the doppelganger, about the other self being predicted and manipulated by the faceless people they never see.
Ils ne pensent pas à le double numérique qu'on a, à cette personne de l'ombre qui est manipulée et qui est déplacée par ceux qui ont le contrôle sur nos informations numériques.
It's not what they're doing wrong which is their danger, but what they're just doing all the time.
Le danger pour les gens, ce n'est pas ce qu'ils font de mal, c'est ce qu'ils font tout le temps.
But nobody wants them to think about that.
Et personne ne veut que vous pensiez à ça.
Because that's how the money's made.
Parce que c'est comme ça qu'on fait de l'argent.
Ben Moglen, rencontré à New York, il est professeur de droit
à Columbia University et il réfléchit, il passe son temps à réfléchir sur la protection de nos droits en matière numérique et à cette mutation considérable dans laquelle nous sommes de gré ou de force, que ça nous plaise ou non, engagés. On revient à ce que je disais tout à l'heure sur la cible commerciale que nous représentons pour le commerce, pour la marchandise, et la précision supplémentaire, extraordinaire, que les données numériques donnent d'ores et déjà dans ce domaine.
Alors, Stéphane Leray, nous voici ici dans les bureaux des Mousquetaires, qui sont connus sous les enseignes Intermarché, Bricomarché et Mousquetaires.
Alors, j'occupe la fonction de directeur d'innovation. En fait, je m'occupe de prospective et de roadmap technologique. L'idée, c'est de remonter un maximum de données, parce que on est plus en coïncidence avec l'attente du consommateur, et être capable, à chaque instant, de trouver les éléments pour le pousser à consommer, grosso modo. Ça permet bien entendu plus de profit, en même temps de voir l'évolution dans les comportements des consommateurs, des grands fondamentaux de la société.
Déjà pour comprendre, moi quand j'arrive au supermarché avec ma carte Intermarché, la carte des Mousquetaires, ma carte de fidélité qui me permet d'avoir quelques coupons, qu'est-ce que vous savez sur moi? Quelles infos vous avez sur moi en fait?
Alors, ce que je sais sur vous, c'est d'une part, quand vous avez souscrit la carte, l'ensemble de vos déclarations, votre nom, votre prénom, votre lieu d'habitation, si votre statut marital, votre genre, êtes-vous marié, votre âge, etc. Donc, je connais ça de vous. Et puis après, au fur et à mesure que vous viendrez faire des courses chez nous, que vous présenterez votre carte de fidélité pour avoir vos points, eh bien, je vais apprendre ce que vous achetez. Et au fur et à mesure, semaine après semaine, mois après mois, année après année, je vais constituer votre profil. Je vais voir, au travers de l'analyse de vos données, eh bien, imaginer un peu quelles vont être votre consommation, ce que consomment vos enfants, éventuellement le départ d'un enfant de votre foyer, etc. etc. Donc il y a une vraie connaissance derrière.
Ah, c'est intime, malgré tout, quoi.
Ça peut aller très loin. Bon, maintenant, le big data doit nous permettre, effectivement, d'apporter du conseil aux consommateurs, de l'alerter s'il y a des mauvaises consommations, de l'aider dans ses choix, ses arbitrages, et lui permettre de rentrer sur une vie plus saine maintenant. Plus saine, c'est pas non plus au distributeur de le dire. Surtout, tu arrêtes de boire, surtout, tu arrêtes de consommer du sucre, surtout, tu arrêtes.
Non. Surtout, c'est pas votre rôle d'arrêter les gens de consommer.
C'est pas notre rôle, mais bon, s'il consomme pas de sucré, il consommera du salé, il consommera autre chose, je veux dire, à un moment donné.
Light.
Mais on peut avoir une consommation plus intelligente. Donc, aujourd'hui, dans le monde du retail, donc du commerce, le big data fait partie de cette technologie qui est censée un peu révolutionner la façon dont on va travailler avec le consommateur.
Chez Intermarché, on lutte tous contre la bichère. Chloé, par exemple, elle est mousquetaire chez Intermarché. En observant les familles, elle s'est vite rendue compte que plus on a d'enfants, plus on dépense d'argent. Alors, elle a créé un nouvel avantage à la carte de fidélité, le programme Famille Nombreuse. 10% d'économie sur plus de 500 produits de la sélection des mousquetaires. Et 10% d'économie sur autant de produits, ça fait des familles 100% heureuses. Intermarché, tous unis contre la vie chère.
Sandy, votre travail consiste à récupérer les traces numériques, même les plus minuscules, et d'en tirer des conclusions. C'est-à-dire que on laisse tous, aujourd'hui, des traces numériques, où qu'on aille, quoi qu'on fasse, et vous, vous récupérez tout ça, et vous êtes capable de prédire des choses.
One of the most interesting things about big data is what it does for science.
Ce qui est intéressant avec le big data, c'est tout ce qu'on peut apprendre dans le domaine scientifique.
Because we don't understand humans and humanity very well. All the sciences with very small data.
Parce que pour les comportements humains, en fait, on a très peu de données pour pouvoir les mesurer.
Il s'appelle Alex Pentland, on le rencontre au MIT, à Boston, Massachusetts Institute of Technology. Vous connaissez cet endroit prestigieux dont sont sorties des quantités d'innovations de toutes sortes, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà, Alex Pentland, il est directeur du laboratoire de dynamique humaine du MIT. Et il est aussi, il co-dirige les projets du Forum économique mondial en matière de big data et de données personnelles. Très impressionnant quand il parle du pouvoir de prédiction des miettes numériques, nos miettes numériques.
So, for instance, the main projects we've been working on is mapping disease. When people become sick, they change their behavior. And so you can see when someone's coming down with a flu, or you can see when someone is depressed, because they behave differently.
Un exemple de ce qu'on a fait, c'est de cartographier, par exemple, les maladies. Parce que quand quelqu'un est malade, elle change son comportement. Donc on peut voir quelqu'un qui change son comportement, et donc qui témoigne de ce qu'il a la grippe, ou alors qu'il a une autre maladie.
So this is on the individual level, so you have to be careful about the data. If a hospital or a doctor has a patient, they might sign up to have their data watched so that they could be caught when they begin to be sick.
Alors ça, c'est des données individuelles, donc c'est très sensible. Mais imaginons qu'un hôpital ou un docteur ait un accord avec ses patients pour avoir toutes ces informations et qu'il puisse justement le saisir juste au moment où il commence à être malade.
So another project, we worked with Orange in the country of Côte d'Ivoire. And so what we did is we took all of the data that Orange had about the country and we collected it into aggregates. So there was no one person visible anywhere.
Alors ce qu'on a fait, nous, par exemple, on a travaillé avec la société Orange en Côte d'Ivoire. On a collecté toutes les informations détenues sur la Côte d'Ivoire par Orange et on les a agrégées dans un tout numérique. Ce qui fait qu'on ne sait pas qui est quoi. Il n'y a aucune information nominative individuelle.
And then we made this available for research groups around the world. We got 90 research groups to work with the data, and they did things like these maps in the background here.
Et donc, il y a plus de 90 groupes de recherche à travers le monde qui ont eu accès à ces informations et qui ont pu les traiter, et c'est comme ça qu'on a pu faire des cartographies.
Where you can see the poverty index in every neighborhood, even neighborhoods that the government can't go to because of the civil war.
Des cartes qui mesurent, par exemple, l'indice de pauvreté quartier par quartier, y compris dans des quartiers où le gouvernement ne pouvait pas aller à cause de la guerre civile.
And then the other map that's up there is a map of ethnic divisions. So this is in some ways halfway between good and bad. Because ethnic divisions are where the violence is. No one knew before where the divisions were. No one could go out and survey all this data.
Après, il y a aussi une autre carte que vous pouvez voir où là, il y a les diversités ethniques qui est répartie. Et alors là, on est vraiment à la frontière entre le bon et le mauvais usage du big data. Mais c'est en même temps, c'est des données qui n'auraient pas été accessibles autrement, qui n'auraient pas été possible d'aller faire des recensements complets, détaillés.
But now, using this sort of big data, you can say, these are the places where we're likely to see ethnic violence. These are the places where we need to heal society by bringing them together.
Mais simplement, on voit apparaître sur cette carte les lignes de fracture entre les communautés les unes et les autres, et donc les zones où il y aurait des risques d'explosion de violence. Et donc, on peut décider de prévenir et de faire du lien social sur ces zones précises où les communautés risquent de s'entrechoquer.
And this is this sort of tension between the new power to see society is why we did this with the United Nations, we brought in the World Economic Forum, we brought in all these other partners. Because what we're seeking is to be able to get the public good from big data while preventing the evil as much as is possible.
Et nous, ce qu'on a voulu faire, c'est d'essayer de mettre en avant les côtés positifs pour le bien commun de l'usage des big data en essayant de contenir autant que possible les mauvais usages qui peuvent être faits. Et c'est pour ça qu'on a cherché d'avoir le patronage des Nations Unies, du Forum économique de Davos et de beaucoup d'autres organisations afin d'essayer justement de tirer au mieux l'usage qui peut être fait de toutes ces données.
Avant, en tant que médecin, j'avais du mal à assurer le suivi de mes patients atteints de maladies chroniques comme le diabète, car je ne prenais connaissance de leur état qu'au moment de nos rendez-vous. Aujourd'hui, grâce à la solution de télésuivi d'Orange, j'ai un accès permanent aux données de santé de mes patients. Avec Connected Health Center, leurs informations médicales sont directement transmises vers une plateforme sécurisée, capable de les restituer de et vers n'importe lequel de mes supports, smartphone, PC ou tablette.
Orange.
Sandy, vous êtes rassurant et inquiétant à la fois, parce que nous, on est très inquiets, très paniqués par le big data, et vous nous dites « big data for a better life », c'est-à-dire, il y a des possibilités que le big data améliore la vie.
Yeah, so what big data gives you is a tool
to better understand the society and how changes in society change the pattern of life.
Oui, Big Data, ça permet de mesurer, c'est un outil qui permet de mesurer beaucoup mieux comment la société change et comment le changement de la société change la vie.
So Big Data is scary, but it's also a great promise. Yes, you could make a surveillance society with Big Data, and everyone's very scared about that.
Alors bien sûr que les Big Data, ça peut être inquiétant. Bien sûr qu'on peut y voir des menaces.
But at the same time, you could stop infectious diseases like SARS and H1N1, make a society that will recover from a disaster much more quickly.
Mais en même temps, ça a tout à fait un aspect positif qui peut nous servir, par exemple, pour planifier de la reconstruction après une grosse catastrophe, par exemple, pour pouvoir éradiquer des épidémies comme le SRAS ou comme le H1N1.
So the key question is controlling the data, and that's what I call the New Deal on data. You know, I have to be able to know what's happening to my data, what I get out of it, what value is it to me, and I have to be able to turn it off and erase it.
Et c'est ça que j'appelle moi le New Deal, la nouvelle donne pour les données, c'est-à-dire quand est-ce que moi je peux décider de couper le robinet et d'empêcher et d'effacer les données qui me concernent.
De toute façon, votre constat de départ, c'est qu'on le veuille ou non, Big Data est là. Personne ne peut échapper à ces traces numériques qu'il laisse. Je ne peux pas dire non, je refuse ça. C'est déjà en route, c'est là, et je ne peux pas y échapper.
Yes, we are going to a big data world,
oui.
And what we have to do is we have to figure out how to live in that world.
Oui, on va vers un monde big data, et ce qu'il faut qu'on fasse, c'est se poser la question de comment on va essayer d'y vivre, comment ça va se passer.
L'affaire date de mi-janvier, elle a été révélée par le site PC Impact. 3% environ des données clients de l'opérateur Orange auraient été piratées, ce qui fait quand même près de 800 000 comptes sur 26 millions d'abonnés.
France Info.
Alors il s'agit d'une intrusion informatique à partir de l'espace client sur le site orange.fr.
2 février 2014.
Selon l'opérateur, les pirates auraient récupéré les noms, prénoms et adresses postales des clients, mais ni les mots de passe, ni les données bancaires, qui sont stockées de manière partielle avec des astérisques à la place de certains caractères.
Voilà, piratage de 800 000... compte Orange, on nous promet qu'on est protégé, que les pirates n'iront pas sur nos comptes bancaires pour les vider. Espérons que ça va marcher. Il faut rappeler c'était en quelle année ? C'était en 2011. Près de 100 millions de fichiers clients du réseau PlayStation ont été victimes depuis le mois dernier, disait une des pêches de l'une des plus grandes opérations de piratage de l'histoire d'Internet. Donc voilà, les données, puis le piratage, tout ça est quand même assez inquiétant. On retrouve Eben Moglen. Eben, on a rencontré au MIT, Sandy Pentland, qui lui dit « Oui, mais les traces numériques que nous laissons, ça peut aussi être très positif. Par exemple, d'après toutes les traces numériques qu'on a sur vous, on sait que vous mangez dans tel et tel et tel restaurant, vous aimez la bonne nourriture, etc. » Ok, donc on peut dire à Eben, écoute, il faut que tu fasses attention, tu vas nous faire un diabète. Donc ça, c'est le côté positif. Ce qui serait intéressant, c'est que Eben soit d'accord. Pour qu'on l'observe.
And Sandy's quite right about this.
Et Sandy a assez raison à ce sujet.
In fact, your smartphone knows a great deal about your health that you don't know yourself.
Ton téléphone portable sait beaucoup de choses à propos de ta santé que tu ne sais pas toi-même.
Let's get more accurate even than your example.
Mais soyons encore plus pertinents que ton exemple.
Your doctor changed your prescriptions last week. Are they working better now?
Ton médecin a changé ta prescription la semaine dernière. Est-ce que ça marche mieux?
Your phone knows whether you got up more quickly in the morning. It knows whether you walked more quickly on your way to work. It knows whether you have more or less energy.
Ton téléphone sait si tu t'es réveillé plus vite ce matin, ou si tu marches plus vite, ou si tu as plus d'énergie.
In fact, if you carry an Android smartphone, it can take your pulse by just looking at your face.
En fait, ton téléphone Android peut prendre ton pouls simplement en voyant ton visage.
So the telephone company is getting a lot of what we call small data about you.
Donc la compagnie de téléphone acquiert énormément de ce qu'on appelle les petites données à ton sujet.
And this small data is very valuable to you for all the reasons Sandy says.
Et ces petites données ont beaucoup de valeur pour toi, pour toutes les raisons que Sandy a détaillées.
Now, go and ask Orange to give it to you.
Maintenant, va voir Orange et demande-leur de donner toutes ces informations te concernant.
See what happens.
Et vois ce qui va se passer.
They will say that that's their property and you can't have it.
Ils vont dire c'est leur propriété et que tu ne peux pas en avoir l'usage.
So then we need to talk about not whether it is good or bad, because Sandy is quite right, it's both.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on se pose la question si c'est bien ou mal, parce que Sandy a assez raison quand il dit que c'est les deux à la fois.
We are having a political conversation about who controls things.
C'est parce qu'on rentre dans une conversation politique au sujet de qui contrôle quoi.
À ce qui paraît, l'heure de la révolte a sonné. Ça rend les pouvoirs soupçonneux, donc il nous faut espionner à chaque mauvaise passe. Ils placent des caméras, des satellites dans l'espace pour les rater de nos messes basses. Y'a même des barbouzes qui écoutent les fraîches des barbus, voir s'ils incitent les frères à se faire sauter dans le prochain Airbus. Putain de merde, quand je fume trop, ça me rend parano. Je vois des flics partout comme Tony Soprano. J'ai peut-être vu trop de films où l'avenir du monde tient qu'à un fil, le contenu d'une puce ou d'un microfilm. J'ai peut-être vu trop de vie basculer sur le coup de fil d'un indique, une simple écoute téléphonique. Même nos blogs sont infiltrés, garde ça à l'esprit quand tu dis. Et méfie-toi des camionnettes anodines. Y'a peut-être un téléobjectif qui te shoot derrière une vitre fumée. Souris qui est filmé, non rien arrête le crime dans les grandes villes. Les gens vivent dans la crainte et dans pas tranquille. S'ils le pouvaient, ils s'armeraient pour mieux se protéger, plutôt que de se savoir épier par la NSA, le Mossad et les RG. En plus tout ça ne sert à rien, c'est malheureux mais on se souvient de ce qui s'est passé en 2001. Tout ça ne sert à rien, j'attends toujours les preuves de la présence d'armes massives sur le sol irakien.
Un œil sur nous, et suivez de pistes, les stupides fisques, un nuit et risque, c'est une idée fixe. Garde un œil sur nous,
sur nos fringues, sur nos caisses, sur les gains qu'on ramène, sur la vitesse à laquelle on progresse.
Un œil sur nous,
ils nous suspectent comme des braqueurs ou des terroristes, une population à haut risque.
Garde un œil sur nous.
Jérémy Zimmermann, je vous retrouve dans les locaux de la Quadrature du Net. Vous êtes encore pour quelques jours le porte-parole. Et je viens vous voir parce qu'on commence à percevoir, comme beaucoup d'auditeurs aujourd'hui, l'importance qu'ont toutes les données qu'on laisse partout, qu'on essaime dès qu'on se balade dans notre monde numérique. Qu'est-ce que ça peut changer, le traitement des big data, des grandes données personnelles accumulées, par exemple pour des activités qui représentent aujourd'hui déjà des budgets considérables, par exemple des sondages?
À partir du moment où on sait que Big Data est en réalité Big Brother, beaucoup de choses changent. On l'a vu avec la réélection de Barack Obama, c'est un staff politique qui, en ciblant les individus, comprend que telle personne, plutôt riche, noire, voterait normalement pour Barack Obama, mais ne va pas aller voter. Et donc on lui passe des coups de fil où on le fait culpabiliser en disant « si tu ne vas pas voter, c'est Mitt Romney qui va être élu ».
Ça c'est ce qui a été fait pour la campagne.
C'est ce qui a déjà été fait. Donc on imagine cette logique poussée toujours de plus en plus loin, avec des profils de plus en plus précis, de plus en plus de sources de données.
À partir justement des Google, des Facebook et tout ça.
Et bien sûr, et des données, pourquoi pas, téléphoniques, bancaires, la géolocalisation des téléphones, etc. Il sera possible de prédire une élection et pourquoi pas d'établir les programmes électoraux en fonction de ces prédictions. C'est une forme de populisme 2.0 auquel on aurait beaucoup de mal à échapper. Le fait est que ces profils d'individus deviennent de plus en plus précis et de plus en plus précieux avec le temps. On peut se dire légitimement « Oh, ben moi, ce que je clique sur Internet, ça intéresse personne. » Mais imaginez 5 ans ou 10 ans de tous vos clics sur Internet. Le moindre article de presse que vous avez lu, le moindre film porno que vous avez regardé, le moindre film pas porno, la moindre musique, les messages que vous avez tapés, ceux que vous avez commencé à taper puis effacés, etc. Imaginez tout ça agrégé par des algorithmes intelligents, voire des algorithmes prédictifs, et on se rend compte que ces profils pourraient en savoir plus sur nous-mêmes que notre famille, que nous-mêmes.
En 2008, les réseaux sociaux étaient utilisés par une élite. En 2012,
plus de 50% des Américains sont membres d'un réseau social.
BFM TV, 6 juin 2012.
Autre nouveauté dans cette campagne, le développement du data mining, l'exploration de données. Il s'agit d'exploiter de façon quasi industrielle les données personnelles des internautes, de manière à cibler très finement les messages qui leur seront ensuite envoyés. Ça s'appelle le micro-targeting, le micro-ciblage. Et il s'agit aussi et surtout de récupérer les listes des contacts de chacun.
L'idée, c'est vraiment d'être capable de pouvoir analyser votre carnet d'adresses si vous en avez laissé le droit, et du coup, de vous donner des indications, des informations pour pouvoir envoyer vous-même un message, mais qui soit adapté à chacune ou à chacun de vos amis sur Facebook pour les mettre en relation avec la campagne de Barack Obama.
L'aboutissement de tout cela, c'est le dashboard, le tableau de bord, un outil de coordination militante en ligne qui fonctionne comme un réseau social. C'est un véritable standard virtuel, mais avec des informations personnelles sur les citoyens à contacter.
Par rapport au profilage, tu dis, on a tous maintenant notre navigation, nos usages, nos habitudes. La plupart des gens disent, que ça soit par la NSA ou par les services secrets, ou que ça soit par Google, Facebook ou les autres, moi, de toute façon, j'ai rien à cacher, j'ai rien à me reprocher. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là?
Ah, c'est un grand classique. Bon, déjà, je pense que les gens se rendent de plus en plus compte que c'est faux. En réalité, tout le monde a quelque chose à cacher, au moins de quelqu'un. On a tous quelque chose à cacher d'un parent, d'un ami, d'un ex-ami, d'un employeur, d'un ex-employeur, d'un collègue, d'un ex-collègue, de sa belle-famille, de sa femme, de son mari. Ensuite, purement et simplement, parce que si vraiment vous n'avez rien à cacher, alors vous ne verriez aucun inconvénient à ce que l'on mette une caméra de surveillance dans votre salle de bain et dans votre chambre à coucher et qu'on en rende toutes les images publiques. Ou alors distribuer vos logins et vos mots de passe Google et Facebook pour que n'importe qui puisse aller voir dedans et publier tout ce qu'il y trouve. Eh bien non, on se rend bien compte qu'il y a un problème quand on évoque ces scénarios-là. Et en fait, on a tous quelque chose à cacher qui est ce que l'on appelle purement et simplement l'intimité. L'intimité, c'est cet espace que l'on peut souhaiter de partager, mais dans lequel on est sans masque, sans faux-semblant, sans barrière, aussi sans jugement. À grands coups de marketing, on nous a fait croire qu'au plus on publiait, au plus on se dévoilait, au plus on allait avoir d'amis et être de meilleurs individus quantifiés par un nombre d'amis. Et en réalité, on s'aperçoit de plus en plus que l'utilisation de ces données personnelles peut être utilisée pour contrôler les individus, voire pour les détruire. On se souvient du général 4 étoiles Petraeus, dont la carrière s'est terminée suite à une histoire extra-conjugale. Et pas besoin d'aller jusqu'à des exemples de ce côté-ci de l'Atlantique pour voir combien des histoires personnelles peuvent avoir une influence sur des situations politiques. Donc, cette intimité, on est en train de se la faire shipper, de se la faire ratiboiser par ces entreprises et les services de renseignement de la planète. Et il est grand temps de reconquérir cette intimité, de reconquérir la protection de nos vies privées, de reconquérir nos données personnelles qu'il va falloir faire évoluer donc dans la société tout entière.
Le droit de posséder des données qui portent sur nous, le droit au contrôle total de l'utilisation de nos données, le droit de nous débarrasser de nos données ou de les distribuer. Voilà des revendications minimum. Et ben le combat continue. Le bon Dieu te regarde même quand t'es au cabinet. C'était le second volet d'un reportage de Guy Van Til et de votre serviteur. Merci à Noam Chomsky, Eben Moglen, Sandy Bentland, Jérémy Zimmerman et Stéphane Leray. Quelques associations qui luttent pour les libertés sur Internet. La Quadrature du Net de Jérémy Zimmerman, on en a parlé. La Free Software Foundation de Richard Stallman ou encore le Free Software Lao Center d'Eben Moglen. Il doit en exister également en français. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a, oui, c'est vrai que certains ont souligné qu'on signale l'existence de là-bas si j'y suis sur la page Facebook. Et là, on attend vos commentaires. À la technique aujourd'hui, Mathias Alléon et Clément Vuillet. Au montage, Guy Vanctil et Jonathan Duong. L'émission a été réalisée par Franck Adhérer et Guillaume Giraud. Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la basse JSP au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. On se retrouve demain à 15h pour la basse JSP avec l'équipe du monde diplomatique. Il y a plein de sujets passionnants dans ce diplôme de ce mois-ci. Donc à demain, 15h. Je vous laisse avec Hervé Pochon et son temps de Pochon.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
Je vous ai vu, vous faisiez visiter l'exposition à Monsieur le maire. Donc vous y connaissez.
Ben oui, Nicolas Offenstadt, oui, je suis un spécialiste de la question des fusillés.
Qu'est-ce qu'elle représente, cette exposition, pour vous ?
Écoutez, ce qui est très important, c'est que c'est la première grande exposition sur les fusillés à Paris. Il y a déjà eu des expositions en province, plus petites, plus modestes. Mais là, c'est mettre évidemment le sujet au cœur de la capitale. Donc c'est montrer que c'est un sujet très important pour la Grande Guerre et que ça peut faire réfléchir au-delà de la question des fusillés sur tout un ensemble de questions, les rapports civils-militaires, la violence de guerre. Donc je crois que c'est un événement quand même mémoriel.
Bonjour à tous et bienvenue à l'Hôtel de Ville de Paris pour cette exposition « Les fusillés pour l'exemple, les fantômes de la République ». Une exposition qui se tient jusqu'au 7 mars et qui est gratuite.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire, cette carte postale. Hein. C'est la veuve d'un fusillé qui s'appelle Blanche Maupas, qui, dès la guerre, a dit « cette exécution n'est pas légitime ». Elle s'est interrogée sur le sort de son mari. C'est une femme extrêmement volontaire et elle a décidé d'enquêter elle-même. Hein, ce qui est évidemment très courageux, surtout au moment de la guerre, hein, puisqu'on est encore dans une atmosphère très patriotique d'union sacrée. Et elle s'est rendue compte que l'exécution était inique. Et elle a consacré toute sa vie. Elle a même écrit un livre sur son mari et sur son combat qui s'appelle « Le fusillé ». Et là, on voit une carte postale qu'elle a éditée elle-même, une carte postale de propagande, où elle est devant la tombe de son mari. Elle a un doigt accusateur que vous voyez ici. Et c'est elle-même qui l'a édité hein, pour mettre en scène son combat. Donc vous voyez, c'est une femme tout à fait exceptionnelle. Et elle dit « Cher martyr, tu seras vengé ». Et elle a consacré toute une partie de sa vie à la réhabilitation des fusillés. Et d'ailleurs, elle a même fait l'objet d'un film, d'un livre. Et vous avez d'ailleurs un de ses descendants ici.
Bonjour.
Bonjour.
Je viens vers vous. Est-ce que les fusillés ont été rajoutés sur les monuments aux morts ?
En fait, dès l'époque même, certains sont inscrits, mais ils n'ont pas droit à la mention « mort pour la France ». Donc ça dépend des autorités locales. Si certains ont voulu passer outre et les ont mis, il n'y avait pas de souci particulier. Et parfois, on a mis des catégories particulières, « mort au combat » ou des choses comme ça, mais ils n'ont pas droit à la mention « mort pour la France ». Donc ça dépend des autorités municipales. Donc certains le sont, certains ne le sont pas.
Ce qui est très bizarre d'ailleurs, toutes les croix devaient être faites sur le même modèle, puisque c'était écrit « mort pour la France ».
Oui, en réalité, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui étaient faites aussi dans la vitesse de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a évidemment le droit, mais il y a la réalité. Et il y a des maires qui, quand ils voyaient arriver un avis de décès, même si c'était un fusillé, n'avaient pas envie de le séparer de ses autres camarades. Il fallait aller vite. Vous savez, il y a des maires qui cumulaient les avis de décès. Hein. Les croix, on les faisait aussi avec des modèles. Donc il ne faut pas imaginer qu'on est toujours dans une application stricte du droit. Hein, et parfois, on fait avec ce qu'on a pendant la guerre de 14-18.
Et alors, vous êtes qui par rapport à...
Je suis l'arrière-petit-fils du caporal Maupas.
Et votre nom ?
Laurent, Bruno Laurent.
Quand est-ce que vous avez découvert cette histoire ?
Bah écoutez, moi, par rapport aux autres familles dont j'ai entendu les témoignages aujourd'hui, on est un petit peu, je dirais, une famille atypique du fait du combat de Blanche Maupas pour la réhabilitation.
Donc votre arrière-grand-mère.
Arrière-grand-mère, tout à fait. Et moi, depuis tout petit, je savais que mon arrière-grand-père avait été fait la guerre de 14, avait été fusillé pour une chose qu'il n'avait pas faite, avait été réhabilité, et c'était une chose, je dirais, pas normal, mais bon, ça faisait partie de l'histoire familiale. Mon grand-père lui avait fait la guerre dans les transmissions, avait eu des médailles. Bon, il en était sorti. Je ne l'ai pas connu parce qu'il est mort un peu avant ma naissance. Mais voilà, j'avais un grand-père, un arrière-grand-père qui avait fait la guerre de 14. Et ça faisait partie de l'histoire familiale. Dans une émission de télévision, l'historien André Castelot a évoqué le caporal Maupas. Bon, moi j'étais un peu petit, mon père m'a dit c'était ton arrière-grand-père. Et quelques temps après, cet historien se déplace à Cherbourg pour signature d'un de ses livres. Donc mes parents me disent, on t'emmène. Il se présente à André Castelot. Voilà, je suis donc mon père, le petit-fils du caporal Maupas. Voilà mon fils. Et André Castelot m'a dédicacé son livre à l'arrière-petit-fils de ce héros. C'est vrai que c'est une chose qui m'a dit, tiens, c'est... Là, il s'est passé quelque chose en plus, quoi.
Vous dites qu'il a été fusillé pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. Quelle était cette chose ?
Pour n'être pas sorti des tranchées au moment d'une attaque. En fait, il ne pouvait pas sortir de la tranchée. C'est un petit peu le scénario des Sentiers de la Gloire. puisque le Humphrey Cobb qui a écrit le livre s'est un peu inspiré de pas mal de faits, et notamment d'un livre écrit par Blanche Maupas, donc mon arrière-grand-mère, dans le cadre de la réhabilitation de son mari.
Mais là, il n'a pas pu sortir
parce qu'il ne pouvait pas sortir. Ceux qui sortaient se faisaient tuer aussitôt. Voilà, il retombait sur les autres. 12 caporaux ont été pris pour être exécutés. Parmi les 12, 8 ont été sauvés un petit peu par leurs sous-officiers qui ont dit « Bah non, c'était pas possible, on n'a pas pu ». Et dans sa section à lui, il n'y avait plus de sous-officiers. Donc, ça a été, ils ont été condamnés, jugés plus exactement, et condamnés aussitôt, et exécutés dès le lendemain.
En quelle année ?
En mars 15.
Vous me disiez que vous, ce matin, vous étiez réunis avec les descendants de tous ces fusillés ?
Pour beaucoup, d'ailleurs, ça a été un secret de famille. Certains qui l'ont appris il y a 4-5 ans. Et je pense que c'est ça qui, pour beaucoup, c'est un peu un traumatisme. Alors, soit c'est le secret de famille qu'on cache, soit on l'apprend comme ça en... Alors que je dirais du côté de ma famille, pas du tout. Ça faisait partie de l'histoire familiale. Chez ma grand-mère, il y avait le portrait de Théophile Maupas. Il y avait la photo du monument des fusillés à Sartilly. Enfin, ça faisait partie de l'histoire familiale.
Et aujourd'hui, vous faites quoi, monsieur ?
Je suis retraité, là. Après avoir fait une carrière de 35 ans de policier.
Ah, tout s'explique. Vous avez voulu faire régner l'ordre après avoir été...
Je veux dire, l'ordre, pas, mais je pense que peut-être le sentiment d'injustice. Voilà.
Si vous pouvez juste citer mon dernier bouquin quand vous me présentez...
Très bien, voilà, dites-moi.
La Grande Guerre, carnet du centenaire, chez Albin Michel.
Nicolas Offenstadt, je vous remercie.
Un temps de pochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.
France Inter présente American Bluff, un film de David Russell, actuellement au cinéma. 10 nominations aux Oscars, dont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleures actrices et meilleurs acteurs.
Did you ever have to find a way to survive? And you knew your choices were bad.
Un couple d'arnaqueurs est obligé de s'allier au FBI pour infiltrer la mafia et piéger un homme politique corrompu.
It's gotta be the best we've ever done.
Avec Christian Bale, Bradley Cooper, Jeremy Renner, Amy Adams et Jennifer Lawrence. Retrouvez American Bluff dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter et le Théâtre National de Chaillot présentent du 7 au 14 février Cabaret Warszawski, la dernière création de Krzysztof Warlikowski. Avec ce spectacle, le metteur en scène polonais nous invite à un cabaret varsovien décapant. Troublante traversée du siècle entre les années 1930 et le 11 septembre. Entre le cabaret de Christopher Isherwood et le short bus de John Cameron Mitchell dont il s'inspire. Retrouvez Cabaret Warszawski dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
Présence 2014, Paris-Berlin. Présence, le festival de création musicale de Radio France. Pour sa 24e édition, les plus grands compositeurs des deux rives du Rhin seront à Paris. 13 concerts, 9 créations mondiales, du 13 au 25 février, avec les orchestres, le chœur et la maîtrise de Radio France.
Toutes les informations sur concert.radiofrance.fr.
Vive Paris-Berlin.
Vous écoutez France Inter, il est encore 16h. Les informations, Aurélie Bambuc.
Un cargo échoué à Anglet, des milliers de foyers privés d'électricité en Bretagne, les conséquences des vents forts qui soufflent depuis l'année dernière sur la façade atlantique. Dans les Pyrénées-Atlantiques, un cargo espagnol a fait naufrage à Anglet ce matin. Victime d'une panne moteur, il a percuté une digue. Le plan de lutte contre les pollutions maritimes a été déclenché. Le cargo n'avait pas de chargement lorsqu'il s'est brisé, mais il contenait du fioul, l'équivalent de 4 camions-citernes. Les 11 membres d'équipage ont dû attendre le début de l'après-midi pour être évacués à cause des mauvaises conditions de mer. En Bretagne, 25 000 personnes sont toujours privées d'électricité après le passage de la tempête Petra. En tout, 9 départements des Côtes d'Armor aux Pyrénées-Atlantiques sont toujours en vigilance orange, vague submersion. Une exploitation politicienne d'un côté, un scandale d'État de l'autre. Nouvelle polémique pour le gouvernement après la publication d'informations dans le Canard enchaîné concernant la mutation d'un magistrat. Selon l'hebdomadaire, le procureur général de Paris, François Faletti, s'est vu proposer par la chancellerie un poste d'avocat général à la Cour de cassation, poste qu'il a refusé, mais il a dénoncé une tentative d'éviction. Réaction outrée dans l'opposition et la profession. Christiane Taubira s'est défendue cet après-midi de toute mutation politique. Devant l'Assemblée nationale, la ministre de la justice a assuré que le procureur général Faletti a été invité à un entretien tout à fait classique. Des propositions de loi pour compenser le report du projet de loi. Les parlementaires socialistes à l'initiative après la décision du gouvernement de repousser l'examen du projet de loi sur la famille. Le gouvernement qui assure conserver le cap de la réforme sur ces thèmes de société. Le report n'était ni un reniement ni un renoncement pour la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti. À deux jours de l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, Vladimir Poutine visite le village olympique de Sotchi. Le président russe qui a rappelé que la sécurité des Jeux était une préoccupation majeure des autorités. Vladimir Poutine qui rencontrera vendredi son homologue ukrainien, le président Yanukovych, attendu à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux. Aujourd'hui, c'est avec la chef de la diplomatie européenne que le président ukrainien s'entretient à Kiev. Quatre arrestations à New York dans l'enquête sur la mort de l'acteur Philip Seymour Hoffman. Le corps de l'acteur de 46 ans a été découvert dimanche dans son domicile de Manhattan. Il avait une aiguille dans le bras. La police a arrêté trois hommes et une femme. Ils sont accusés de possession illicite de drogue. L'acteur avait suivi en mai dernier une cure de désintoxication de 10 jours. Enfin, des nouvelles du naufragé retrouvé dans le Pacifique après avoir dérivé pendant plus d'un an et 12 000 kilomètres. Hospitalisé sur les îles Marshall, il va rejoindre son pays, le Salvador, à la fin de la semaine. Sa famille attend son retour avec impatience, mais plusieurs spécialistes ont émis des doutes sur son récit. Difficile pour eux de croire que l'on puisse survivre aussi longtemps dans des conditions si extrêmes. L'homme solidement bâti paraissait dans une forme physiquement bonne à son arrivée dans la capitale des îles Marshall.
Tous les samedis à partir de 20h, le grand rendez-vous live de France Inter, présenté par Vali.
Cette semaine dans Live Me Do au Studio 105, la rencontre rétro-futuriste d'un producteur en vue et un songwriter d'exception, Broken Bells. The soul du spoken word d'Anthony Joseph.
He was a black whip of a woman.
Et l'insolence pop rock 50s de Bosco Del Rey.
Pour assister à l'enregistrement de l'émission, rendez-vous ce soir à partir de 18h30 devant la porte B de la Maison de Radio France ou réservez dès maintenant vos places en vous connectant sur franceinter.fr.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
16h04, l'heure de retrouver le carrefour de l'Odéon avec vous, Frédéric L'Odéon, bonjour.
Bonjour Aurélie Bambuc, on vous retrouve à 17h pour d'autres informations. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à vous et merci d'être avec nous. Ah oui, ça souffle toujours à l'ouest. Prenez vos précautions, on pense bien à vous, aux Bretons et à tous ceux qui sont exposés, même plus au sud, évidemment, à ce vent tumultueux. J'ai des témoignages personnels assez récents. Donc hier, vous avez entendu le premier mouvement du concerto pour flûte de Vivaldi, La tempête de mer, pourquoi pas maintenant une très belle prestation aussi de Pascal Gallois avec l'Orpheus Chamber Orchestra pour le final de ce concerto qui nous paraît un petit peu poli aujourd'hui. Quand on pense à la tempête, on pense évidemment on sait ce qui se passe à Douarnenez aujourd'hui, Douarnenez, et puis on sait aussi qu'il y a des creux de 6 à 9 mètres. Alors cette petite flûte élégante, est-ce qu'elle traduit vraiment les éléments? En tout cas, elle les suggère. Le presto, le final, après le premier mouvement hier, donc, du concerto pour flûte, numéro 1, opus 10 de Vivaldi, La Tempête de mer, par Patrick Gallois. Pascal, c'est son frère qui est bassoniste, et l'Orpheus Chamber Orchestra. Et donc, on va rester à Vivaldi, avec Vivaldi qui nous offre aussi une autre description, celle de la nuit, la notée. Et ça, c'est une musique que vous connaissez peut-être si vous avez vu le film fameux Les Choses de la vie, avec Romy Schneider et Michel Piccoli, une histoire d'amour tragique. Et il y a un passage qui est bouleversant, où la musique se fait haletante, et c'est l'évocation de Vivaldi de ses émotions devant les éléments, devant les passions humaines aussi. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qui fait que ce n'est pas seulement un compositeur instrumental formidable ou un compositeur d'opéra, pas seulement un technicien, mais vraiment un humain qui s'exprime par les sons.